Jeune fille, je voulais voir la Bavière. On m'avait dit que c'était très différent du cœur de l'Allemagne où j'avais passé les 22 premières années de ma vie. Au printemps 1930, j'arrivais à Munich où je cherchais immédiatement du travail. N'ayant pas étudié préalablement la situation économique de Munich, je fus donc surprise de découvrir la pénurie des offres d'emploi, mais aussi le fait que la ville détenait le record des rémunérations les plus basses. Je refusais plusieurs offres, espérant trouver mieux. Mais la situation devint rapidement difficile dans la mesure où mes maigres économies s'épuisèrent rapidement. Comme j'avais démissionné de mon poste chez le notaire Nagold, dont je m'étais servi comme d'un tremplin avant mon départ pour la Bavière, je ne pouvais demander aucune allocation de chômage. Lorsque je répondis à une petite annonce rédigée en sténographie dans les Münchner Neueste Nachrichten, je n'imaginais pas que celle-ci allait m'ouvrir les portes de la plus grande des aventures, qui déterminerait le cours de ma vie, et dont les conséquences m'affectent encore aujourd'hui. Je fus invitée à me présenter dans la Schellingstrasse par une organisation qui m'était totalement inconnue, l'Oberste SA-Führung, ci-après abrégée en OSAF. Dans cette rue déserte aux rares commerces, on trouvait au numéro 50 la direction du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ci-après abrégé en NSDAP, le parti nazi, au quatrième étage du bâtiment sur cour. C'est là qu'Heinrich Hoffmann, futur photographe officiel d'Adolf Hitler, avait réalisé d'étranges films. Doté d'une immense verrière, cet ancien studio photographique était désormais occupé par Franz Pfeffer von Salomon, commandant des SA, abréviation de Sturmabteilungen, les sections d'assaut, et le docteur Otto Wagner, son chef d'état-major. J'appris plus tard que j'avais été la dernière des 87 candidates à me présenter. Le fait qu'on me choisisse, alors que je n'étais pas membre du NSDAP, que la politique ne m'intéressait guère et que j'ignorais qui était Adolf Hitler, ne s'explique que par le fait que j'avais 22 ans, une solide expérience en sténographie et de bonnes références. Je possédais aussi plusieurs diplômes, témoignant de premiers prix remportés lors de concours de sténographie. Le numéro 50 abritait un centre d'apparence très militaire, avec de constantes allées et venues d'hommes grands et minces, à l'évidence tous d'anciens officiers. Il y avait peu de Bavarois parmi eux, une proportion qui s'inversait dans les services du NSDAP répartis dans les autres étages. Les hommes de l'OSAF semblaient appartenir à une élite militaire. Et c'était bien le cas. La plupart avaient été membres des corps francs de la Baltique. Le plus fringant et élégant d'entre eux était le commandant de SA Franz Pfeffer von Salomon. Après la Première Guerre mondiale, il avait combattu avec les corps francs dans la Baltique, en Lituanie, en Haute-Silésie et dans la Ruhr. En 1924, il devint Gauleiter, chef de district dans l'Allemagne nazie et les territoires rattachés au Troisième Reich, du NSDAP en Westphalie, puis dans la Ruhr. Son frère Fritz, qui avait perdu une jambe et dont les cheveux avaient blanchi prématurément, était son chef de cabinet. En 1926, Hitler chargea Franz Pfeffer von Salomon de centraliser les SA de tous les districts. Au départ, chaque Gauleiter possédait sa propre SA et sa propre méthode. Nombre d'entre eux étaient des Hitler miniatures, qui n'œuvraient assurément pas pour l'unité du mouvement. Alors qu'Hitler devenait le grand décideur en toutes choses, il considéra comme opportun de supprimer les Gauleiter en centralisant la SA. C'était un fort habile coup d'échec. Hitler considérait les SA comme le bras armé indispensable pour imposer les directives au parti. Parce que les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaitait, Hitler délégua cette tâche désagréable à Salomon. Le fait de ne pas s'impliquer était une manœuvre habile, à laquelle Hitler recourrait encore par la suite. Bien entendu, les Gauleiter virent d'un très mauvais œil une telle réduction de leurs prérogatives, adressant leurs reproches à Salomon et ne cessant de rapporter à Hitler les pires suspicions le concernant. À l'évidence, Hitler avait anticipé cette réaction, et c'est précisément la raison pour laquelle il avait délégué cette tâche, esquissant assurément un sourire intérieur devant sa capacité d'anticipation. En août 1930, Hitler dut céder devant la pression des fauteurs de troubles et sacrifier Pfeffer von Salomon, une décision qu'il regrettait apparemment de devoir prendre, même s'il n'appréciait guère le personnage. Après avoir clairement fait comprendre à Salomon qu'il avait cessé d'être utile, celui-ci démissionna en août 1930 et Hitler en profita pour se nommer commandant en chef des SA. J'eus maintes occasions de me rendre compte combien Franz Pfeffer von Salomon était critique. Un jour, je vis sur son bureau un exemplaire de l'hebdomadaire du parti, le Völkischer Beobachter. On y voyait une photographie d'Hitler que Salomon avait gribouillée, transformant sa veste militaire portée de manière décontractée en un vêtement élégamment taillé. Salomon semblait ne pas trouver à son goût la silhouette ainsi que les choix vestimentaires du Führer. Et il n'était sans doute pas le seul. Le chef d'état-major de l'OSAF était donc le docteur Otto Wagner. Cet ancien officier d'état-major et combattant dans les corps francs venait, comme Salomon, d'un milieu aisé et débordait d'énergie pour remettre l'Allemagne sur pied. Il avait abandonné un poste de PDG dans l'industrie et, se fiant à son frère d'armes, Salomon, il avait répondu à l'appel d'Hitler. Le docteur Wagner officiait à l'université de Würzburg. Il s'agissait d'un homme d'une grande érudition, dont les liens étroits noués avec des politiciens, des industriels et la noblesse apparaissaient à l'évidence dans son imposante correspondance que j'étais chargée de transcrire. Pendant qu'il était en poste à l'OSAF, le docteur Wagner rédigea des lettres économico-politiques qui me donnèrent beaucoup de fil à retordre du fait de leur longueur et de la multiplicité des sujets abordés. Mon travail pour le docteur Wagner s'interrompit quelques semaines lorsqu'Hitler le nomma commandant par intérim en septembre, en attendant le retour du capitaine Ernst Röhm, rappelé de Bolivie. Ernst Röhm était le fils d'un inspecteur en chef des chemins de fer à Munich. En 1908, il s'enrôla avec le grade de lieutenant et combattit à Flinval sur le front ouest durant la Première Guerre mondiale. Il fut gravement blessé à trois reprises. Un éclat d'obus lui fit perdre l'extrémité de son nez. Quand il rencontra Hitler en 1919, il était employé à l'état-major de la Reichswehr, armée de la République de Weimar de 1919 à 1935. En tant qu'officier de liaison, Röhm était un membre important du mouvement nazi et un familier d'Hitler. Il fut ensuite démis de ses fonctions pour son rôle dans le putsch de 1923 et incarcéré. Pourtant, un an plus tard, il était élu au Reichstag pour le Parti national-socialiste de la liberté, NSFP, et organisait le groupe armé Frontbahn, dont il abandonna le commandement lorsqu'Hitler sortit de la prison de Landsberg. Fin 1928, il fut rétabli au rang de lieutenant-colonel dans la Reichswehr et envoyé à La Paz avec le grade de chef d'état-major en tant qu'instructeur militaire. En 1930, Hitler le rappela donc pour diriger les SA. À ce moment-là, je passais deux semaines à la direction des jeunesses hitlériennes, installée dans un appartement privé. Après l'intensité de mes activités à l'OSAF, j'eus presque l'impression d'être puni. Lorsque le 1er janvier 1931, le docteur Otto Wagner prit la tête du service de politique économique, le WPA, il fit à nouveau appel à mes services. Les bureaux des différents services du commerce, de l'industrie et de l'agriculture se situait dans la Maison Brune, au numéro 34 de la Briennerstrasse, à l'emplacement de l'ancien palais Barlow, face à l'Annonciature. Le docteur Wagner avait coutume de dicter de longs rapports sur les discussions qu'il avait eues, sans jamais mentionner le nom de son interlocuteur. Il faisait aussi de fréquents voyages, et une fois de retour, me dictait de longs mémoires qui disparaissaient dans son cabinet de travail. Je m'agaçais souvent de cette production de paperasserie qui me semblait inutile et relevée du goût du secret. Il fallut attendre 1978 et la publication de ses mémoires pour que je comprenne alors que son mystérieux interlocuteur et compagnon de voyage n'était autre qu'Adolf Hitler, auquel s'ajoutaient Franz Pfeffer von Salomon et Gregor Strasser. Wagner, Salomon et Strasser voyaient en Hitler un génie visionnaire, tout en ayant conscience du danger potentiel d'un tel génie, qui, renforcé par son pouvoir charismatique, était capable d'ensorceler les foules.